Alors, jeudi dernier, je suis retournée à la Fondation Lambrecht, cet EHPAD protestant qui est à Châtillon et qui est lié à la paroisse, et j'étais faire le culte comme j'y vais tous les 15 jours. Mais là, c'est encore un peu le temps des vacances. L'animatrice était encore en vacances, il n'y avait pas d'activité ni d'animation. Le personnel était assez pris et il n'y avait pas grand monde pour descendre les résidents, sauf Guylaine, que j'ai vue quelque part et qui est bénévole. Voilà, Guylaine qui est bénévole à Lambrecht et une autre bénévole. Donc heureusement, toutes les deux nous ont aidés à descendre des résidents. Et on a quand même été une petite assemblée. Mais au moment où je suis arrivée, donc il n'y avait encore personne, les portes étaient fermées, etc. Et devant la porte, il y avait le monsieur de 101 ans, qui est un peu notre mascotte. Il était devant, assis sur un fauteuil, et il attendait qu'on arrive. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il est remonté dans sa chambre depuis le repas ou pas ? Parce qu'en fait, le réfectoire était à côté, et si ça se trouve, eh bien, il avait tellement peur de rater le culte qu'il était resté là un bon moment. Ensuite, à la fin du culte, une autre dame m'a dit, elle est arrivée en retard avec son fauteuil roulant, et en fait, elle m'a expliqué qu'elle était venue en marche arrière. Parce que quand vous avez un fauteuil roulant et que vous n'avez pas la force dans les bras, vous pouvez pousser qu'avec vos pieds. Et donc, elle avait plus de force dans ses pieds pour aller en arrière que pour aller en avant. Que d'effort et de temps cela lui a-t-il demandé ? Je me suis dit alors, quelle foi anime ces personnes pour déployer autant d'efforts pour venir au culte et entendre une parole qui leur fait du bien. Pourtant, au moment du Covid, on s'est demandé quel était l'avenir des assemblées dans les églises. En effet, on peut trouver des cultes sur Internet maintenant, à toute heure du jour, à toute heure du jour et de la nuit, à tous les coins du monde. Et pourtant, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose d'unique à être ensemble, dans une assemblée. Quelque chose d'unique à se retrouver à côté d'une personne dont je ne connais souvent pas le nom, que je n'ai peut-être jamais vue, et pourtant cette personne à côté de moi, devant ou derrière, vient pour la même chose se placer devant plus grand que nous, le désir d'être là nous unit. Donc je fais une toute petite pause dans ma prédication et je vous propose simplement de vous regarder les uns les autres autour de vous pour voir qui est autour de vous et vous saluer juste d'un sourire, d'un regard, pour voir que vous n'êtes pas seul et que, en fait, c'est ça qui fait la force de nos églises et de nos assemblées, c'est notre incarnation d'être là avec notre corps. Après, si on ne peut pas être là avec notre corps, c'est très bien d'avoir les enregistrements parce que c'est important. Et on est content de la technologie qui a fait un énorme bond en avant avec le Covid. Mais vous qui êtes là ce matin, eh bien vous êtes des témoins visibles de ce Dieu que nous ne voyons pas. Un prêtre catholique, Jean-Marie Petitclerc, disait « La seule manière de confesser Dieu qu'on ne voit pas, c'est de reconnaître le frère, la sœur, qui est là, à nos côtés. Oui, quand on est ensemble tourné vers Dieu, notre foi se renforce. » Il y a donc un paradoxe dans l'expression de la foi qui est formulé dans le premier verset du livre des Hébreux. Je vous lis une autre traduction. « La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. » Et une autre, « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. » Ce n'est pas facile à traduire. En grec, il est question de la base, du fondement. Et puis, il y a un autre mot qui veut dire « l'affaire », la chose qui est faite, et un autre mot qui veut dire « la preuve ». Et à côté de cela, Elpizomenon parle d'espérance, Elpis, ou bien l'expression ou blepomenon de ce qu'on ne voit pas. Comment mettre ensemble l'espérance et la certitude, la preuve de choses attestées mais sans voir ? Croire, c'est avoir une conviction intérieure qui ne peut s'exprimer que par le témoignage. Je peux dire que Jésus a existé et qu'il est mort, Cela est avéré historiquement. Mais je ne peux pas prouver qu'il est ressuscité. Je ne peux que le croire. Je ne peux que témoigner de la force de vie qui m'est donnée par sa présence vivante, mais invisible et spirituelle. Les églises chrétiennes ont transmis de génération en génération depuis 2000 ans des gestes, des symboles visibles qui renvoient à la réalité de Dieu qu'on ne voit pas de nos yeux. Quand on entre dans une église, eh bien, on voit un certain nombre d'objets, une croix, une Bible, et on comprend que cela renvoie à une autre réalité invisible de la foi en Dieu. Et c'est aussi le rôle de nos sacrements. Nous aimons dire dans notre Église, les sacrements, donc je vous rappelle, hein, chez les protestants, on a deux sacrements, le baptême et la Sainte Cène. Nous disons que c'est le signe visible de la grâce invisible. Quand nous prendrons la Sainte Cène, par exemple, eh bien, c'est en témoignage de ce que Jésus a vécu. C'est un signe que Jésus est présent spirituellement par notre prière et notre foi. Dans un des panneaux de l'exposition que vous découvrirez dimanche prochain, il y a cette petite phrase de Louis Evely, un écrivain catholique. Il dit « Croire, c'est être fidèle dans l'obscurité à ce qu'on a vu dans la lumière. Croire, c'est être fidèle dans l'obscurité à ce qu'on a vu dans la lumière. » Et le titre de ce panneau est « La foi comme regard ». Alors, dans le passage de l'évangile de Jean, il est question de regard. Celui de Jésus et celui qui vont devenir des disciples. Jésus va se mettre en route avec Philippe, qu'il vient d'appeler. Mais Philippe fait un détour. Il va chercher Nathanaël et lui parle de Jésus. Devant le peu d'enthousiasme de son ami, il finit par lui dire « Viens et vois ». À un moment, on ne peut plus expliquer, il n'y a pas de mots pour raconter ce qu'on peut vivre dans notre foi, avec le Christ, avec Dieu. Il y a quelque chose de profond qu'on ressent au fond de soi, quelque chose qui donne sens à notre vie. Viens et vois. Ces deux mots ont été répétés par une chaîne de croyants, car l'envie de partager la foi est grande et cette force nous pousse à témoigner de l'invisible. Nathanaël suit Philippe. Et là, il voit Jésus. Mais en fait, c'est plutôt Jésus qui le regarde. Un regard de vérité, un regard de connaissance, un regard intérieur. Jésus dit de Nathanaël, « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de tromperie. »« D'où me connais-tu ? » dit Nathanaël. « Je t'ai vu sous le figuier » avant que Philippe ne t'appelle, répond Jésus. Alors le figuier, c'est une manière de dire qu'on étudie les Écritures, on étudie la Torah. Nathanaël se demande bien d'où Jésus le connaît. Parce qu'évidemment, savoir que l'autre nous connaît est une vraie surprise, parce que notre être intérieur fait partie de notre intimité, que nous ne dévoilons pas à tout le monde. Et à l'époque, eh bien, j'ai imaginé que se retrouver devant Jésus devait être une expérience assez forte. Le regard particulier de Jésus est cité dans de nombreux textes. Non pas un regard inquisiteur ou jugeant, mais un regard qui sonde les cœurs, un regard d'amour envers le jeune homme riche, ou un regard acéré pour déjouer les pièges tendus par les pharisiens et autres religieux. Ce regard de Jésus ne vient pas de lui, mais de sa relation au Père. La relation que Jésus entretient avec Dieu est la base de toute sa vie. C'est ainsi qu'il peut regarder, parler, agir. Mais que dire de son regard alors qu'il n'est plus au milieu de nous? C'est là qu'intervient l'Écriture. Les témoins de Jésus ont dû écrire pour raconter ce regard, pour nous donner la certitude que Jésus nous connaît tous et toutes, ou plutôt chacun et chacune d'entre nous. certitude de ce qu'on ne voit pas. Les évangiles, les actes et les épîtres nous racontent de manière très différente qui est Jésus pour que nous puissions nous ouvrir à la foi. La fin de l'évangile de Jean l'exprime ainsi. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'Écriture peut être le lieu de la naissance de la foi. Mais nous avons aussi besoin les uns des autres. Nathanaël a eu besoin de Philippe pour l'entraîner vers Jésus. Et si l'on réfléchit personnellement à toutes les personnes qui ont eu de l'importance pour notre foi, qui ont participé à notre foi, qui nous ont guidés vers le Christ, combien y en aurait-il ? Amusez-vous à la maison à faire la liste des personnes qui vous ont permis d'être là ce matin. Peut-être des pasteurs, des catéchètes sûrement, des paroissiens, des amis, des personnes d'autres confessions chrétiennes, et puis des personnes de notre famille. Nous le voyons aussi dans le livre à Timothée, celui que Paul appelle « Mon enfant bien-aimé ». Paul parle de la foi sincère de Timothée, qui habita d'abord en sa grand-mère, puis dans sa mère. Et d'après le récit des Actes des Apôtres, c'est sa mère qui se serait convertie à la foi en Jésus-Christ, venant parce que c'était une famille qui venait du judaïsme. Bon, la famille, c'est un peu à double tranchant. Elle est importante pour la transmission du contenu de la foi, pour l'exemple aussi. C'est vrai, quand on voit des personnes de sa famille aller à l'église, au culte, ça compte. Mais la foi, c'est Dieu qui la donne. Et parfois, eh bien, on voit des jeunes ou des personnes qui se détournent de la foi par réaction contre. Mais pas toujours. Et puis parfois, la famille ne fait rien du tout. Elle ne transmet rien du tout. Alors, il existe un désir diffus qui met la personne en recherche. Et on peut dire, en voyant toutes les histoires de foi de chacun et de chacune, qu'il n'y a pas une seule même trajectoire. Elles sont toutes différentes. Et c'est toujours surprenant de découvrir la trace de Dieu en chacun et chacune de nous. Je sais que Dieu me connaît quand je reconnais sa trace dans ma vie. Oui, Dieu nous connaît et sait comment, par quel chemin, venir nous chercher, venir nous dire qu'il est vivant. Alors la foi est un défi, et vue de l'extérieur, elle est d'un autre âge. Vue de l'intérieur, elle procure joie, paix et amour. Peut-on croire à l'inconnu, croire sans avoir peur, croire sans savoir où ça va m'emmener ? Il y a longtemps, j'ai accompagné un homme dans des entretiens spirituels et à un moment, il s'est arrêté. Il avait trop peur que cela le change. Oui, croire en Dieu, au Christ, c'est partir dans une aventure qui ne nous brusque pas parce que Dieu marche à notre pas. Il nous accompagne pour nous faire grandir dans la foi parce que notre foi n'est pas la même quand on a 20 ans, 40 ans, 60 ans ou 90 ans. Les événements de la vie la mettent à l'épreuve, les périodes de doute alternent avec les périodes de confiance. Et c'est dans ce thème de la foi comme risque et comme audace que nous continuerons ce thème dimanche prochain, car la foi nous met en mouvement et nous appelle à la confiance. Et pour faire connaître notre exposition et notre temple, peut-être avez-vous quelqu'un dans votre entourage à qui vous pouvez dire « Viens et vois. » Amen.